Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, la France renoue-t-elle avec le libéralisme ? Si Myriam El Khomri pensait pouvoir se débarrasser au plus vite de son projet de loi sur le travail, eh bien c'est raté. La présentation du texte en Conseil des ministres est reportée d'une quinzaine de jours. Alors ce délai suffira-t-il à ramener un peu de cohésion au sein de la majorité gouvernementale ? C'est peu probable, tant la loi de la ministre du Travail représente, aux yeux d'une partie de la gauche, le pire épouvantail qui soit, à savoir un arsenal de mesures toutes plus libérales les unes que les autres. Le libéralisme semble pourtant avoir le vent en poupe ces derniers temps. Au sein du gouvernement, avec en premier lieu Emmanuel Macron, qui revendique sa qualité de libéral, et encore plus à droite, si l'on en juge par les programmes des candidats à la prochaine primaire, fin de l'ISF, taux d'imposition unique, réforme du statut de la fonction publique, réduction drastique des dépenses, comme un hommage posthume à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Il y a seulement quelques années, rares pourtant étaient ceux qui s'aventuraient, politiquement en tout cas sur le terrain, du libéralisme économique. Pourtant, ce courant de pensée n'est pas totalement étranger à notre histoire politique. Il fut même un moteur au moment de rompre avec l'ancien régime. Alors la France renoue-t-elle avec le libéralisme ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Cécile Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'Institut économique Molinari, qui est un think tank qui promeut les idées libérales. Vous avez publié en 2014 aux éditions Les Belles Lettres Manitoba, enfin c'est une coédition. Trop tard pour la France, vous posiez la question, osons remettre l'État à sa place. Pour discuter avec vous, un inspecteur des finances, Guillaume Sarla, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez une société de conseil en stratégie pour les entreprises, une société basée à Londres. Et vous avez publié l'an dernier chez Albin Michel, c'était il y a quelques semaines de cela, En finir avec le libéralisme à la française, ouvrage dans lequel vous expliquez notamment que si le niveau des dépenses publiques est aussi élevé en France, eh bien c'est seulement pour compenser les effets destructeurs du libéralisme.
Tout à fait.
Et puis notre troisième invité, il se trouve en duplex, ce qui fait déjà rire Cécile Philippe. Troisième invité en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble, c'est Kevin Brooks. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po Grenoble et vous travaillez actuellement sur une thèse consacrée à la circulation des idées néolibérales en France depuis les années 70. Alors pour commencer l'émission, je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce qu'on peut peut-être qualifier de moment libéral que connaîtrait la France à travers une double actualité, cette campagne des primaires à droite qui démarre et puis cet avant-projet de loi El Khomri sur la réforme du droit et du travail qui prévoit notamment le plafond de l'indemnité prud'homale, la priorité aux accords d'entreprise, des référendums au sein des entreprises. Est-ce que pour vous, Cécile Philippe, c'est une loi libérale qui se prépare ?
Alors, c'est une, pour répondre directement à votre question, c'est une loi dans laquelle, effectivement, on trouve du saupoudrage, je dirais, libéral, quelques recettes libérales. Donc, de ce point de vue, effectivement, on peut pas dire que, ils essayent pas d'aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle la liberté des individus de contracter, de s'organiser un peu à leur manière. Mais voilà, on reste dans le discours. Un, parce que on sait pas si cette loi aboutira et comment elle aboutira et où elle ira. Et ensuite, j'ai envie de mettre un autre bémol, c'est que cette loi arrive un peu comme de nulle part, sans avoir été comprise dans un projet de société, justement, où on aurait expliqué aux Français et à la société en quoi la liberté contractuelle sur le marché du travail, pourquoi la liberté doit être au cœur du changement du code du travail notamment.
Donc il n'y a pas encore de projet de société libérale, mais il y a quelques touches de libéralisation. Guillaume Sarla, est-ce que vous partagez ce diagnostic sur cette loi ?
Je trouve qu'effectivement on est plus dans un moment de communication libérale que dans un moment libéral. Ouais. Donc là, le moment de communication, on le voit, et comme beaucoup de moments de communication, il s'articule, comme vous disiez, autour d'un certain nombre on peut dire des dossiers, je dirais plutôt des chiffons rouges, donc ça va être l'ISF, ça va être le droit du travail, ça va être le statut des fonctionnaires, qui aujourd'hui, je pense, un certain nombre d'acteurs trouvent leur intérêt à s'articuler autour de ça, parce que ça permet de faire un programme pour les primaires des Républicains, ça permet aussi sans doute un certain nombre de manœuvres tactiques pour le gouvernement actuel, mais je pense qu'on est beaucoup plus dans un moment de communication, et ce qui explique qu'effectivement qu'on nous propose des textes qui sont visiblement mal préparés, ou en tout cas pas préparé sur le fond et qui semble un petit peu en apesanteur en arrivant en fin de mandat et en apesanteur par rapport à une réalité qui me paraît un peu déconnectée du constat qui est fait.
Juste pour compléter, parce qu'effectivement, je partage tout à fait ce point de vue, c'est qu'effectivement, on arrive à un fin de mandat. Enfin, la réforme du marché du travail, c'est un projet de société. On fait pas ça à la va-vite, on fait pas ça juste quelques mois avant le début d'une campagne présidentielle. C'est quelque chose qui doit impliquer tout le gouvernement, qui doit impliquer toute la société française. Ça demande vraiment de la communication, mais de la vraie, c'est-à-dire celle qui prend son temps, celle qui s'explique en fait et qui explique pourquoi ça peut être intéressant pour une société effectivement d'aller vers plus de liberté sur le plan du travail.
Kevin Brooks, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on est avant tout dans un moment de communication libérale? Et si oui, comment est-ce que vous expliquez que ce qualificatif-là, aujourd'hui, soit aussi facilement assumé quand il ne l'était que très difficilement il y a encore quelques années?
Mais je pense qu'il faut remettre donc cet épisode dans l'histoire du libéralisme français, parce qu'on a là une des caractéristiques du libéralisme à la française, c'est-à-dire que on a des réformes libérales qui sont proposées, mais en revanche elles sont ni théorisées en amont et elles sont en décalage par rapport à la campagne qui a été menée en 2012. Donc on avait retrouvé aussi ces éléments dans les années 1980 quand la gauche avait mis en place tout un ensemble de mesures libérales complètement en décalage avec leur programme politique. Donc on a un moment libéral non théorisé, non expliqué au frissé.
Cécile Philippe et Guillaume Sarlat, ce que nous disait Kevin Brooks, donc on avait ce moment libéral-là. Est-ce que quand on regarde ce que peut être, alors le programme, j'ai pris en vrac, hein, ce qui est le programme des candidats aux primaires à droite, je le disais un petit peu en ouverture d'émission, mais il y a donc la suppression de l'impôt sur la fortune, alors ça fait un consensus parmi tous les candidats. Il y en a certains, je crois que c'est Hervé Mariton qui plaide par exemple pour un taux d'imposition unique, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire tout le monde est soumis au même niveau d'impôt. Est-ce qu'il faut là aussi peut-être y voir avant tout une façon de se positionner par rapport à une gauche qui oblige à libéraliser le discours de la droite? Ou bien est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une forme de conversion qui serait une véritable conversion idéologique, Guillaume Sarlat?
Écoutez, moi, ma thèse par rapport à ça, alors qui est ni une thèse de philosophe ni d'historien, mais qui est une thèse de praticien de l'économie française et puis un petit peu de l'État français, et je crois que c'était aussi le point de vue de Kevin Brooks, c'est que moi, la ligne de fracture, je la vois absolument pas en 2014, 2015 ou en 2017, mais je la vois plutôt au milieu des années 80, à un moment où effectivement, il y a un certain nombre de mesures très libérales qui ont été prises, de libéralisation des marchés, de libéralisation des marchés financiers, et qui n'ont pas été assumées à l'époque, et qui se sont déployées depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense pour des raisons relativement tactiques, de déficit idéologique à droite. Hein. Je pense qu'il y a un certain nombre de candidats à droite qui cherchent leur positionnement dans l'absolu et vis-à-vis de la gauche. On a effectivement ces sujets de type ISF ou droit du travail, pour lesquels moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en inadéquation vis-à-vis du débat. Par rapport au droit du travail, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler très à fond, mais quand vous regardez de manière comparative et un petit peu fine ce qui se passe par rapport aux autres États, notamment européens, vous voyez qu'ils mettent en place un salaire minimum, vous voyez que des pays aussi libéraux que l'Angleterre ont des conseils de prud'homme, ont des critères pour licencier qui sont pas forcément beaucoup plus laxistes, beaucoup plus libéraux, beaucoup plus faciles que ce qu'on a en France aujourd'hui. Donc on a par exemple ce sujet du droit du travail où je suis pas si sûr que ça soit vraiment le sujet qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et puis on a effectivement cette cristallisation sur un certain nombre de dossiers fiscaux, pour lesquels, moi, il me semble que le sujet, c'est beaucoup plus de privilégier l'investissement de long terme que de se focaliser sur la taxation du capital ou l'ISF aujourd'hui.
Donc, un libéralisme déjà avancé en France, d'après vous, Guillaume Sarlat, avant de laisser répondre Cécile Philippe, je voudrais revenir sur le tournant que vous évoquiez au milieu des années 80. Il y a un tournant bien connu, enfin, en tout cas, historiquement, c'est celui qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Nous sommes en mars 1983, et c'est François Mitterrand qui parle.
Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Sans faiblesse et sans complaisance, soyez mobilisés au service de la France. Même si c'est difficile, parce que c'est difficile.
Ce que j'attends de lui, François Mitterrand parlait du Premier ministre. Cécile Philippe, tournant de la rigueur ou tournant libéral à ce moment-là, dans les années 80. C'est vrai qu'il y a eu l'annonce, par exemple, de privatisation qui ont été importantes. On peut pas dire que c'était de l'étatisme absolu.
Non, mais il fallait voir d'où on partait. Parce que c'est la même chose. Enfin, quand Guillaume, effectivement, parle des autres pays, en fait, il faut bien voir d'où l'on part. Et en fait, quand on regarde l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle en France, qu'est-ce qu'on voit ? Même si, effectivement, il y a eu quelques reculs, ça c'est certain, mais on a surtout avancé. Parce que l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est la croissance non interrompue de l'État. On est passé aujourd'hui, enfin, vous connaissez tous les chiffres, on a des dépenses publiques qui représentent 57% du PIB, des recettes fiscales qui dépassent pratiquement les 50%, on a des déficits depuis 40 ans, enfin, vous voyez, tous les chiffres montrent qu'aujourd'hui, on a une puissance publique extrêmement puissante, extrêmement présente et même si effectivement au cours des dernières décennies, à certains moments clés, il y a pu avoir un discours, parce que là encore, on a un discours un peu plus libéral, mais parce qu'il est nécessaire de l'avoir compte tenu de ce qu'il a précédé et qui était en fait une étatisation forcenée au tout début du mandat du premier mandat de François Mitterrand. On a une étatisation forcenée de l'économie qui fait effectivement donne besoin de retour en arrière. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on vit un peu le même moment, c'est-à-dire que on a eu aussi des mesures extrêmement interventionnistes et étatiste, et on se rend compte que finalement le chômage continue de perdurer, que la croissance est en berne, et donc effectivement on se dit peut-être qu'il faudrait peut-être tenter autre chose.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kevin Brooks? Les tournants libéraux qu'aurait pris la France dans l'histoire récente seraient essentiellement dus à des réactions à trop d'étatisation, ou bien est-ce que ça s'inscrit dans un phénomène peut-être plus large qu'ont pu connaître d'autres pays européens qui n'avaient peut-être pas un État-providence, on va dire, aussi développé?
Oui, en fait, il y a des points de similitude avec la période des années 1980, puisque en réaction, en fait, au moment 1980, la droite a pris un discours très très libéral pour, en fait, attaquer les socialistes au pouvoir. Et en fait, on observe exactement le même phénomène aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les candidats de la primaire utilisent le discours libéral pour critiquer le pouvoir socialiste en place. Mais est-ce que c'est un discours d'adhésion ou un discours pragmatique visant à se constituer une base idéologique pour gagner les élections? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en revanche, on sait dans la sociologie électorale que quand un gouvernement est élu, l'opinion publique a tendance à avoir des opinions opposées aux mesures qui sont prises en place. Donc, quand un gouvernement est très interventionniste, l'opinion publique devient plus libérale, en fait. C'est ce qui est arrivé au milieu des années 1980, il y avait une grande mode autour du mot libéralisme.
Est-ce que c'est seulement l'opinion publique,
cette même mode aujourd'hui?
Est-ce que c'est seulement l'opinion publique, Kevin Brooks, qui est devenu plus libéral, ou bien est-ce que c'est aussi la politique menée par les gouvernements successifs qui sont devenus plus libéraux, y compris par la gauche à l'époque avec la présidence de François Mitterrand?
Oui, tout à fait, puisque les mesures de libéralisation des marchés financiers ont été mises en place par la gauche. Les politiques de fin du dirigisme, notamment le démantèlement des politiques industrielles, a été mis en place par la gauche également, et a été poursuivi par la droite qui a élu en 1986 sur un programme extrêmement libéral, de diminution des prélèvements obligatoires, de pareil démantèlement de certains chantiers navaux. Donc vous avez beaucoup de choses qui se passent à l'époque en réaction au moment 1980. Donc on peut considérer que ce renouveau libéral auquel on assiste n'a rien de nouveau, il a déjà existé l'an passé.
Guillaume Serlat, dans votre livre, vous écrivez ceci: au milieu des années 80, après 40 années de politique économique et sociale dirigiste, la France est devenue brutalement un des pays où l'économie est la plus libérale. Et vous expliquez ensuite que si les dépenses publiques sont toujours extrêmement élevées en France, on est à plus de 56%, je crois, par rapport au produit intérieur brut aujourd'hui, c'est parce que l'État a été cantonné dans un rôle de réparation, disons, des dégâts du libéralisme.
Je pense que dans ce débat autour de la place de l'État et du libéralisme, on confond un peu trop les causes et les conséquences. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je pense, c'est que cette place très forte est de l'État et à l'intérieur de l'État du social, parce que non seulement on a le record des pays développés de la place de l'État, mais surtout on a le record parmi les pays développés du poids des dépenses sociales, c'est un État largement subi. De la même façon, aujourd'hui, quand vous voyez l'État investir, il va bientôt être investi dans la moitié du SBF 120, dans la moitié des grandes entreprises françaises cotées, c'est plus un investissement subi pour pallier un certain nombre de catastrophes industrielles ou de difficultés qu'une étatisation réellement voulue. Donc je pense qu'on confond souvent les causes et les conséquences, et pour moi effectivement cette relative hypertrophie de l'État, c'est plus une conséquence de ce qui a été fait par ailleurs qu'une cause. Et qu'est-ce qui a été fait par ailleurs ? Moi je dis parfois qu'on a le libéralisme le plus bête du monde, c'est-à-dire qu'on a beaucoup ouvert, on a été très moteur sur toutes les initiatives de libéralisation et on l'est toujours, notamment en Europe, libéralisation bancaire, loi de 84 et 86, on a été les premiers, on est encore en pointe sur l'union des marchés de capitaux, on a été en pointe sur l'union bancaire, donc la France est en pointe sur tous ces sujets par rapport à une situation où historiquement c'était l'Allemagne qui était plus demandeuse de ces sujets. La France est en pointe là-dessus, mais en même temps, pourquoi je dis le libéralisme le plus bête du monde, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont les compléments naturels de ce libéralisme et qui feraient un modèle cohérent qu'on n'a pas. On a le libéralisme sans avoir de gouvernance d'entreprise, par exemple très responsabilisante, comme peuvent avoir les anglo-saxons. On a beaucoup moins de place à l'initiative individuelle, ce qui fait que, même si aujourd'hui on parle beaucoup des start-up, etc., on a quand même moins de création d'entreprise que dans d'autres pays. Donc, on a les côtés, je dirais, destructeurs du libéralisme qu'on a connu, externalisation, délocalisation, qui crée du coup ce chômage important. On a moins les boucles de retour que peuvent avoir des pays où il va y avoir plus d'initiatives individuelles et où il va y avoir ce que j'appellerais un libéralisme plus cohérent, sans forcément juger, notamment à l'anglo-saxonne.
Alors ça, c'est quand même un point de vue intéressant, Cécile Philippe. Si le niveau des dépenses publiques en France est à ce point élevé, c'est parce que la France a été précurseur dans l'arrivée du libéralisme, ouais. Et que les libéralismes ayant causé un certain nombre de dégâts, notamment sociaux, il fallait bien que l'État, justement, essaie de réparer ces dégâts.
Ouais, alors moi, ce que j'entends plus dans le discours de Guillaume Sarlat, c'est quelque chose avec lequel je pense en tant qu'économiste, je vais partager, et surtout parce que je m'inspire de la tradition autrichienne chez les économistes, à savoir qu'effectivement, on a assisté à ce qu'on pourrait appeler un processus de libéralisation, mais que moi j'appellerais plus de tragédie des communs, c'est-à-dire qu'on a eu un processus dans lequel la liberté de certains a été privilégiée, et effectivement dans le domaine bancaire et financier ça a été le cas, mais sans qu'il y ait par ailleurs une mise en responsabilité des personnes. Je m'explique, c'est qu'en fait dans le domaine bancaire et surtout dans le domaine monétaire, il faut bien se rendre compte que on a une monnaie qui est publique, c'est un bien, j'ai envie de dire c'est un bien d'État. C'est d'ailleurs pour ça que Friedrich Hayek avait écrit ce fameux livre Dénationaliser la monnaie. C'est parce que justement la monnaie est avant tout un bien public. Et elle est gérée comme un bien public. Et aujourd'hui, on a une monnaie qui est complètement institutionnelle et qui est créée par des banques centrales et d'ailleurs par des politiques extrêmement laxistes. Et dans ce cadre-là, qui est quand même le cadre public, effectivement, il y a eu un processus de libéralisation dans lequel, en fait, les banques et toutes sortes d'acteurs financiers peuvent être aussi irresponsables qu'ils le veulent, puisque de toute façon, en bout de ligne, il y aura ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, le sauvetage des banques, les fameux bail-in, etc.
Oui, mais pardon, Cécile Philippe, mais c'est vrai que c'est un petit peu les arguments classiques. Enfin, vous avez raison de les défendre, puisque vous êtes une libérale.
Ils sont essentiels, parce que...
Mais des libéraux qui est de dire, finalement, voilà, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que la libéralisation de la société est mal faite. Mais sauf que la libéralisation absolue d'une société, ça n'existera pas. Donc on pourra toujours justifier ça.
Attendez, on peut plus ou moins bien la faire. Et puis alors attention, si on veut parler de notre système social, ce qu'on appelle le welfare state, l'État-providence, attention, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, il faut remonter à l'expropriation des sociétés de secours mutuels, des assureurs, etc. Parce que la protection sociale, elle était organisée par des personnes privées, par des sociétés de secours mutuels, etc. Et ça a été nationalisée au moment de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien pour la retraite, la santé, etc. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un système d'État-providence qui naît à cette époque-là et qui va grossir au cours des décennies. Alors ok, il y a eu un processus d'évaluation, mais j'ai envie de dire, c'est pas ça qui fait que on a assisté à ce processus non interrompu de croissance.
Guillaume Sarlat, si aujourd'hui on a du chômage, si aujourd'hui on a peu de croissance, c'est parce qu'on a mal libéralisé en France ou parce qu'on a trop libéralisé?
Écoutez, je pense que je vais répondre entre les deux. Je vais dire que c'est parce qu'on a libéralisé sans responsabilité.
Eh oui, mais c'est pas de la libéralisation.
Et la première des responsabilités...
Donc vous vous assumeriez comme libéral, par exemple?
Oui, tout à fait, oui, mais parce que je pense que effectivement des libertés, alors notre sujet est économique ce soir, mais il y a en plus le sujet des libertés publiques qui, par parenthèse, démontre que ce gouvernement n'est pas libéral, parce que je pense qu'en termes de libertés publiques, on le voit bien. Mais donc si on reste sur le sujet économique, je pense qu'effectivement le progrès, l'innovation va naître de la liberté qui va être donnée aux acteurs de créer. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, je suis libéral. Après, je pense que quand je disais qu'on a le libéralisme le plus bête du monde en France, c'est que la liberté sans responsabilité, c'est extrêmement corrosif. Et donc on peut le voir dans un certain nombre de domaines. Je citais la gouvernance d'entreprise tout à l'heure, donc c'est-à-dire la façon dont fonctionnent les conseils d'administration, la façon dont sont responsabilisés les dirigeants d'entreprise. On a une forme de capitalisme un peu sans responsabilité en France qui est la cause première du fait que l'État aujourd'hui est détenteur de plus de 100 milliards d'euros d'actions françaises. Mmh. Je pense pas que personne n'ait envie de nationaliser le SBF 120 ou le CAC 40 dans l'État. Je pense qu'il y a juste la conséquence de cette irresponsabilité qui est qu'il y a un certain nombre d'entreprises en difficulté qu'il faut soutenir. Donc le sujet, c'est cette responsabilité. Et comme c'était dit à l'instant très justement, la mère un peu de toutes les irresponsabilités, c'est quand même aujourd'hui le prix de l'argent, qui est que quand vous avez effectivement l'argent qui a un prix négatif, il n'y a pas vraiment de fin à l'irresponsabilité, et ça on peut l'imaginer très bien en voyant le budget familial ou les signaux qu'on peut donner à ses enfants. Si l'argent ne coûte rien, c'est pas extrêmement responsabilisant au premier chef pour les gouvernants.
Kevin Brooks, le discours que et la discussion là qu'on entend ce soir, est-ce que pour vous elle s'inscrit dans une tradition française du libéralisme qui remonterait, je sais pas d'ailleurs jusqu'où il faudrait la faire remonter?
Bah, déjà, il faudrait mettre le libéralisme au pluriel. Il existe des traditions libérales, mais mettons que la tradition du libéralisme contre l'État, on peut la faire remonter au XVIIIe siècle avec l'école physiocratique. Et ensuite, elle se développe au XIXe siècle, notamment autour de l'école Jean-Baptiste Say, l'école d'économie politique française. Et cette tradition, en fait, a eu du mal sur le champ politique à s'imposer, parce que une des difficultés du libéralisme, c'est qu'elle a du mal à s'inscrire dans la dichotomie gauche-droite, puisque, par exemple, historiquement, le libéralisme se situe à gauche au XIXe siècle. Frédéric Bastiat se situe à gauche de l'échiquier politique. Et en fait, il n'y a jamais eu de mouvement libéral qui a pu se constituer de manière indépendante. Donc, ils ont dû faire avec d'autres traditions intellectuelles, avec des mouvements politiques existants. Ce qui explique qu'en fait, cette tradition a été plutôt mal représentée avec des moments libéraux, notamment celui des années 1980, mais même de manière antérieure. Il y a eu, par exemple, le rapport Armand-Rueff de 1960 qui appelait déjà à déréglementer certaines professions et à libéraliser l'économie. Mais on peut parler que de moments libéraux, mais ces moments ne sont pas incarnés dans un mouvement, dans une personnalité politique forte, bien qu'il y ait eu des tentatives avortées. Je pense notamment au moment de 1985-86, où autour du Parti Républicain, donc, qui était une composante de l'UDF, Alain Madelin et François Léotard incarnaient très bien ces libéralisme à la française, c'est-à-dire un libéralisme classique qui veut réduire le périmètre de l'État et qui l'assumait dans le débat public. Mais finalement, c'est une parenthèse qui ne s'est pas incarnée politiquement. Et c'est peut-être ce manque d'incarnation politique qui a fait en sorte que le libéralisme à la française a les caractéristiques qu'on a décrites, qui ont été décrites par Guillaume Sarlat.
La réduction du périmètre de l'État, ouais. Cécile Philippe, ça pour vous c'est essentiel?
Ben oui, c'est ça la vraie question, hein. La question qu'on pose quand on parle de libéralisme. Rappelons que le libéralisme c'est une doctrine de philosophie politique, hein. Donc c'est un choix de société, comment on veut organiser notre société et quelle place on veut donner à l'État, mais quelle place on veut aussi donner aux autres institutions. C'est vraiment toute la question. Et effectivement, le libéral qui prône à la fois propriété privée, responsabilité individuelle et concurrence, c'est celui qui pense que, je pense tout de suite à Lord Acton qui dit le pouvoir peut corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. L'objectif de la doctrine libérale, c'est de limiter le pouvoir du souverain, entre guillemets. Hein.
Mais donc, quand on voit par exemple l'impact d'une pétition, alors ça n'est qu'une pétition, mais enfin qui est quand même assez impressionnante par rapport à la loi sur le travail. On en était en milieu d'après-midi à 786 000 soutiens, ce qui est quand même énorme pour une pétition. Beaucoup. Est-ce que ça n'est pas la preuve, en tout cas la manifestation, que ce choix de société, aujourd'hui, n'est peut-être pas majoritaire et que ce n'est pas ce dont les Français ont envie.
Stade, évidemment. Enfin, vous allez pas me convaincre. Moi, je suis dans un think tank depuis 10 ans. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer aux individus en quoi la liberté individuelle, y compris en matière contractuelle sur le marché du travail, peut être extrêmement positive et favoriser la prospérité de tous.
Et extrêmement fragilisante aussi.
Elle peut l'être, mais vous ne trouvez pas que la situation actuelle, elle est extrêmement fragilisante? Ça fait 30 ans qu'on vit avec un chômage de masse qu'on n'arrive pas à résoudre, et notamment parce que les réformes, ou en tout cas la liberté n'a pas été essayée dans le domaine.
Et heureusement que l'État était là, Guillaume Sarlat, justement, pour que cette fragilité induite par les mauvaises conditions économiques permette à certains quand même de survivre. Vous évoquez même la création d'une deuxième économie, d'un deuxième marché économique.
Je pense qu'effectivement, heureusement que l'État a été là, et du coup le système est un petit peu autobloquant, si je puis dire, parce que d'abord, le fait que l'argent ne coûte rien aujourd'hui fait que tout ça peut continuer relativement longtemps, tant que l'argent ne coûte rien. Et puis, effectivement, l'État a recréé un système qui fonctionne. Il y a un polémiste qui résumait mon livre et qui disait, alors je lui laisse la propriété de ses propos, mais qui disait finalement, avec le libéralisme à la française, en France, l'énarque à la direction générale du CAC 40, le cadre à la RTT, et le chômeur à l'ERSA, qui était une façon un peu polémique de résumer une idée que je crois vraie pour le coup, qui est qu'effectivement, tout le monde a trouvé quelque part sa place dans ce dispositif. Je ne suis pas en train de dire qu'il est aussi agréable d'être patron du CAC 40 que d'être au RSA, mais effectivement, ce système, cet État dont tout le monde se plaint un petit peu, dont en plus aujourd'hui on voit la dégradation quand même d'un certain nombre de services publics, il fait, entre guillemets, à peu près le job, et donc il a un caractère relativement bloquant. Le paradoxe, c'est que moi je pense que, encore une fois, si on adopte cette grille de lecture qui est de dire la liberté c'est bien en termes de progrès et de création, mais il faut qu'il y ait de la responsabilité, la première des responsabilités qui n'est pas assumée aujourd'hui, ça devrait être l'État qui devrait assumer une responsabilité supplémentaire, qui devrait être de redonner effectivement à un certain nombre d'acteurs leurs responsabilités. Moi, quand je vois une banque centrale mener la politique qui est la sienne aujourd'hui, quand je vois un certain nombre d'établissements financiers mener la politique qui est la leur, quand je vois un certain nombre de comportements par rapport au marché de l'emploi d'un certain nombre d'entreprises, je pense que les acteurs économiques aujourd'hui, on leur donne pas vraiment de responsabilité, et donc bizarrement, ils les assument pas. Et ça, à un moment, ça serait à l'État de donner ses responsabilités, de fixer le cadre. Et je pense que le paradoxe de ce moment qu'on connaît aujourd'hui, c'est que le moins d'État, il passe à un moment, je pense, par un plus d'État. Les Français, assez logiquement, ne sont pas prêts à lâcher la situation présente, parce que c'est quand même celle qui fait tourner le système. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire on va vendre les 100 milliards d'actions qu'a l'État, on va passer de 57% à 47%. Ça, c'est anxiogène. C'est pour ça qu'il y a 780 000 personnes qui signent la pétition et qu'il y en a, je crois, 7 000 qui signent la pétition contraire. Donc, il y a une cible, et puis après, il y a le point de passage vers cette cible, et qui passe par un moment que l'État tienne des responsabilités qui ne tient plus aujourd'hui, qui est de fixer un peu ses responsabilités aux autres acteurs.
Et d'investir et de définir des stratégies de long terme,
non,
Cécile Philippe.
Non, moins d'État, c'est d'investir.
C'est d'investir simplement parce que c'est ce qu'écrit Guillaume Sarlat. Hein, donc,
D'accord, pardon.
Je ne fais que restituer ce que j'ai lu dans son livre.
D'accord, merci. Mais ce que j'entends et ce que je pourrais partager, effectivement, c'est que aujourd'hui, l'État en fait tout Il n'y a plus un domaine de l'économie ou même de nos vies dans lesquels l'État n'intervient pas. Et effectivement, un des gros problèmes, c'est que, et moi c'est ce que j'appelle la concurrence institutionnelle, c'est qu'il a pris la responsabilité des acteurs économiques à leur place. C'est-à-dire qu'ils décident à notre place. Et qu'effectivement, une des réformes majeures qu'il faudra faire dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, c'est effectivement d'arriver à redonner aux individus leur responsabilité, mais ça veut dire aussi leur choix, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de retraite, que ce soit sur le marché du travail, etc. C'est-à-dire que c'est des domaines extrêmement larges, et effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 780 000 personnes qui signent une pétition, mais effectivement, le travail de pédagogie et d'explication de ce que les politiques font, mais n'a pas été fait. On a l'impression que du jour au lendemain, ils passent d'une idée à l'autre sans jamais avoir pris le temps de dire pourquoi la chose est faite et pourquoi elle est essentielle, en fait, à une bonne vie sur cette terre.
Kevin Brooks.
Oui, alors justement, pour nuancer un peu cette thèse du renouveau libéral, il faut voir les freins sociologiques qu'il y a à la mise en application des idées libérales. C'est-à-dire, il faut bien voir que dans l'opinion publique, quelle que soit la source qu'on prend, il y a un attachement très fort à l'État-providence de la part des Français, d'une part, et de l'autre, il y a une certaine méfiance à l'égard de la mondialisation. Et après, si on regarde sur le temps long l'évolution de l'opinion publique, en se basant sur l'European Value Study, qui est menée au niveau européen, les Français sont devenus de moins en moins libéraux depuis 1981.
Ouais, ce sont des revanche, études donc sur les valeurs européennes. Je me permets juste voilà, de traduire.
Oui, tout à fait, oui. On observe simplement donc le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF qui mesure l'adhésion à des mesures libérales depuis 4-5 ans. On observe néanmoins que depuis 4-5 ans, la part des Français qui considèrent qu'on devrait moins contrôler les entreprises a augmenté de 20 points depuis 5 ans. Donc, mais c'est peut-être des effets de conjoncture. Donc, il faut pas négliger le frein sociologique dans la mise en application des idées libérales. Il y a un autre frein aussi qui est institutionnel. C'est sur l'identité des acteurs qui portent le libéralisme. Le paradoxe, c'est que le libéralisme n'a pas forcément été porté par des acteurs politiques, mais bien souvent, les réformes ont été portées par des acteurs de la haute administration qui n'ont pas fait le travail de pédagogie qui est d'autant plus nécessaire que, généralement, les politiques libérales remettent en question certains acquis sociaux ou alors certaines positions de professions organisées.
Non seulement n'ont pas fait ce travail, Guillaume Sarlat, mais peut-être qu'aussi ce sont les premières à avoir bénéficié de ces réformes libérales. Vous dites en gros le libéralisme à la française, il profite aux grandes entreprises et aux classes dirigeantes. Et par contre, ceux qui sont en dessous, eux, ils pâtissent des effets de ce libéralisme.
Je pense qu'effectivement, alors j'ai sans doute pas la finesse d'analyse de ceux qui regardent les études d'opinion de près, mais effectivement, je pense que ce système a créé une fracture que moi je vois pas entre le public et le privé. Enfin, je le vois pas dans ma vie professionnelle et j'ai pas l'impression de le voir avec les gens que je rencontre. Mais effectivement, je pense qu'il y a une vraie fracture qui est une fracture économique, sociologique entre les grandes organisations, pour faire simple, qui est un milieu relativement homogène sociologiquement, qui sont les gens qui assez largement profitent de la situation, qui la co-gèrent, qui ont effectivement le caractère déresponsabilisant de savoir que l'État sera derrière au cas où si une grande entreprise a un problème en France. Et puis après, il y a le monde...
Et ça, donc, c'est aussi dans les entreprises privées que vous constatez ça.
Tout à fait, oui. C'est, sociologiquement, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont dans l'administration et dans les grandes entreprises. Merci. Il y a eu un tout petit peu d'internationalisation, mais regardez, c'est extrêmement modeste. Et donc ça, c'est un ensemble homogène sociologiquement, avec des allers-retours dans les deux sens, d'ailleurs. Mais c'est pas tant le sujet des allers-retours, c'est vraiment le sujet de son homogénéité. Et puis à côté de ça, vous avez un monde, alors qu'aujourd'hui on met beaucoup en valeur en termes de communication, et tant mieux. Moi je suis moi-même administrateur d'un fonds de capital risque, et effectivement il y a beaucoup de choses très avec beaucoup de valeurs qui se passent en termes d'innovation de start-up aujourd'hui en France, mais ça reste un monde très étanche quand même avec les grandes entreprises, et une bonne partie de on peut le voir positivement comme du potentiel pour la France, ou un peu plus négativement en disant de l'inefficacité de la France, c'est dans l'étanchéité de ces deux mondes. Mais encore une fois, moi je vois pas la fracture public-privé, je vois la fracture grandes organisations, institutions, petites organisations.
Est-ce que vous voyez la même fracture, Cécile Philippe? Parce que c'est vrai que on vous entend beaucoup parler de l'omnipotence de l'État, mais est-ce que finalement on est davantage face à voilà des certaines rentes de situation, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, que le libéralisme, ça serait ça, c'est-à-dire de permettre la fin de ces rentes, quel que soit le domaine.
Oui, absolument. Vous l'avez dit, c'est que en fait on parle, ce dont on parle là, c'est du capitalisme de connivence, celui qui effectivement se sert de la puissance publique pour obtenir des privilèges, des monopoles, etc. C'est pas du tout ça la philosophie libérale. Hein. La philosophie libérale, c'est celle qui donne des droits égaux à tout le monde, mais qui n'en crée pas certains pour qu'ils puissent en bénéficier, ce qu'on appelle des rentes ou des monopoles. C'est vraiment au cœur du système libéral, vous avez la concurrence entre les individus, la concurrence institutionnelle. C'est-à-dire que vous avez des structures, qu'elles soient des associations, qu'elles soient des entreprises, même la famille. Enfin, vous avez toutes ces institutions qui cohabitent les unes avec les autres et qui, effectivement, produisent des services et fournissent tout ce dont nous avons besoin. Et donc, effectivement, le libéralisme, il a vraiment pour objectif finalement de mettre une vraie étanchéité entre ce que l'État fait et doit garantir à l'ensemble des individus.
C'est-à-dire
les droits, je peux dire l'égalité devant le droit, hein, c'est-à-dire vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous avez les mêmes droits et on doit les faire respecter. Et ensuite, les individus doivent se responsabiliser et agir en tant que personne au sein de d'autres associations. Mais dès que vous commencez à avoir une entité publique qui fait l'objet de la capture de ceux qui sont le mieux à même de le capturer, mais en fait, vous avez ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, qui crée les rentes, les monopoles, etc. Et j'ai envie de dire, c'est la situation de la France. Je dirais que c'est aussi la situation de nombreux pays dans le monde aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à y mettre fin, parce que ça crée le déclin, ça crée la déprime, ça crée l'incapacité pour nombre d'entre nous de gérer nos vies comme nous devrions les gérer.
Ces inégalités, Kevin Brooks, est-ce que ce n'est pas l'État qui est malgré tout le mieux placé pour y remédier ?
Je ne me prononcerai pas sur la question, mais en revanche, quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur cette idée justement d'identité de ceux qui portent les idées libérales, puisque les travaux de Luc Rouban aussi ont montré un phénomène intéressant, c'est que finalement dans les cabinets ministériels, vous avez peu d'ouverture sur la société civile, et donc en fait, cette structure des élites ne permettent pas le renouvellement en fait ni des personnes, mais ni des idées en fait. Il y a très peu de personnes dans ces cabinets qui proviennent des think tanks ou la société civile, ce qui empêche en fait un renouveau des idées, mais quelle qu'elle soit, hein, pas forcément libérale. Et donc, et là, on a une opposition très forte avec un système, par exemple, de haute fonction publique à l'américaine, avec les spoil systems qui permettent justement à chaque changement de mandat, de changer les têtes d'administration et de mettre en place de nouvelles mesures qui rompent avec le gouvernement précédent et qui permettent aussi de se plier à ses promesses électorales. Donc, c'est peut-être ça qui explique aussi une sorte de résilience de l'État-providence en France. Et de politique qui était menée précédemment et qui expliquait pourquoi il n'y a pas eu véritablement de révolution libérale dans les années 1980, mais plutôt une série de réformes sectorielles.
Guillaume Sarlat.
Écoutez, c'est toujours un petit peu la problématique, effectivement, entre les politiques et l'opinion publique de la poule et de l'œuf. C'est sûr qu'il y a ces phénomènes sociologiques de fermeture et que c'est dur de... Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est juste dans un moment de communication. Et donc moi, je ne vois rien d'intériorisé dans ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a tous les éléments entre l'impréparation, les interprétations tactiques qu'on peut en faire, le peu de légitimité aussi d'un certain nombre d'acteurs pour porter ce genre de réforme, parce qu'il ne faut pas forcément avoir été forgeron pour parler de forger, mais avoir quand même forgé un tout petit peu, ça peut aider. C'est sûr qu'on voit pas dans la classe politique actuelle les points d'appui, soit en termes de compétences, soit en termes de crédibilité, soit en termes d'idées, pour faire bouger le dispositif. Après, une fois que j'ai dit ça, pardon d'être un petit peu dépressif peut-être pour les auditeurs, mais on décrétera pas non plus l'ouverture de la politique non plus. Donc il faut sans doute trouver des moyens, des effets de levier un petit peu différents. L'économie, d'une certaine façon, enfin quand on voit effectivement, à mon avis, encore une fois pour des raisons de communication, toute la communication qui est mise, notamment par le gouvernement, sur tout ce qui est start-up, innovation, ouais. Je pense que c'est un malentendu. Mais ça, pour le coup, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Ouais. Ça fait émerger des personnes, ça donne des signaux qui sont plutôt bons. Un peu par désespoir, un peu par conviction et puis un peu par métier, je crois un petit peu plus à l'économie que la politique en ce moment.
Cécile Philippe, pour conclure.
Je peux partager que ce point de vue, hein, c'est qu'effectivement, c'est par l'économie qu'on verra, enfin, disons, à la fois négativement et positivement. C'est-à-dire que je pense que les choses vont continuer encore à se détériorer avant de s'améliorer, parce qu'effectivement, je pense que y a forcément, et ça permettra de faire changer aussi l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte que l'incapacité des politiques à résoudre nos problèmes nous incite à les résoudre nous-mêmes et à prendre confiance en nous pour justement pour les résoudre. C'est quand même le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Et je crois que je vais conclure là-dessus parce que c'est ça en fait. L'objectif, c'est de regagner confiance dans la capacité que chacun d'entre nous a à résoudre ses problèmes, à prendre ses responsabilités et à arrêter de se tourner vers l'État pour dire aidez-nous quoi. Enfin, parce que c'est nous qui nous aidons avant tout.
Et merci Cécile Philippe, Guillaume Sarlat et Kevin Brooks d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez poursuivre sur notre site comme chaque soir. franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Pour vos commentaires, il faut aller, je vous rappelle, tout en bas de notre page. Émission préparée, je les remercie, par Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Hugo Florent. Réalisé par Anne Kobilac, avec à la prise de son ce soir Marie Jaworski. Demain, Siri, à qui faire confiance? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20.